I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui vous arrive sous forme d'Extra Ball, petite récréation hors format qui permet de mettre en lumière un film, une ressortie ou comme on va le faire là tout de suite, une sortie DVD puisqu'on va causer de Démons et Merveilles où sont compilés les courts-métrages de ce grand monsieur de l'animation qui est Jean-Manuel Costa. On va en parler avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut.
Allez, Cinociné Extra Ball spécial Jean-Manuel Costa et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Jean-Manuel Costa, nos confrères de l'écran fantastique l'avaient surnommé le Ray Harryhausen français. Alors ça vaut ce que ça vaut, ce genre de comparaison, c'est souvent un peu pourri, mais disons que ça place un peu la barre quand même. C'est du lourd, Costa. J'imagine, Rafik, que c'est avec joie que tu as revu ou vu les courts-métrages contenus sur ce double DVD qui sort, je le précise, chez Rimini Éditions.
Tout à fait. Écoute, ça fait plaisir pour plein de raisons et un peu aussi pour des raisons militantes parce que il fait partie, Jean-Manuel Costa fait partie de ces artisans avec un A majuscule que la critique, la presse, les médias français ont tendance à vraiment mépriser. Il n'y a pas d'autre mot.
Ils ne les ignorent pas totalement.
C'est ça. C'est, en fait, l'ignorance est une forme, la forme absolue de mépris et voilà, c'est quelqu'un qui a eu quand même, malgré toutes les difficultés qu'il a eu à avoir une carrière, qu'on a eu une quand même et qui s'est fait un petit nom international très difficilement avec ses petits moyens. Donc c'est quelqu'un qui a été fasciné très tôt dans les fin des années 60, début 70 par les extraits de films pour le coup d'Harryhausen qu'on pouvait voir à la télévision, notamment une émission que les jeunes comme vous n'ont jamais connue qui s'appelait la séquence du spectateur et qui passait des extraits de 10 minutes de films à la demande.
Ça n'existe plus.
Voilà. Dans une époque pré-magnétoscope, c'était absolument extraordinaire. Donc souvent c'était des films que justement un peu méprisé par la télévision, que les gens demandaient. Jason les Argonautes et compagnie.
J'allais dire ça.
Donc évidemment, le gamin émerveillé, bricoleur, c'est pas quelqu'un qui vient de la ville, hein, on est plutôt dans l'ambiance campagnarde française, et avec son frère Alain, ils vont se lancer comme ça, sans le moindre élément en main, dans la fabrication de courts-métrages Super 8, de tenter de comprendre comment tout ça fonctionne, et ils vont vraiment payer les pots cassés, découvrir les choses par eux-mêmes. À l'époque, il y a vraiment que dalle, peut-être un ou deux bouquins très vagues sur le sujet. Et donc voilà, sur la fin des années 70, il va commencer à émerger un peu, parce que ses cours fonctionnent plutôt bien. Et le court-métrage qui va vraiment le révéler à un public, on va dire, un peu cinéphile, c'est un court qui s'appelle « La tendresse du maudit ». Je pense, bon, aujourd'hui, selon le critère de la stop motion actuelle, aura bien vieilli, mais qui garde quand même une empreinte autorisante, qui n'était pas forcément quelque chose de volontaire et de conscient chez Costa. C'est l'histoire dans un Paris post-apocalyptique. Une gargouille qui prend vie à Notre-Dame, qui par miracle est restée debout, et qui va tomber amoureuse d'une statue de la Vierge. Donc un amour impossible, voilà, pour cette horrible créature. Voilà. Donc jolie, romantique, et avec justement ce goût très harryhausenien pour le monstre, comment dire, empathique, en fait, celui auquel on prête des sentiments. Le problème d'un gars comme Costa, c'est que malgré le talent évident dont il fait preuve pour donner de la sensibilité à son animation, il vit dans un pays pour qui ce genre de technique n'a absolument aucun intérêt, qui est la France. Et on se doute que le cinéma français, surtout déjà celui de l'époque, n'a absolument pas le moindre besoin de stop motion. Alors peut-être éventuellement un peu dans la pub, mais c'est vraiment le grand maximum. Donc il va d'une certaine façon vivre un peu d'expédient, quoi. Il fera les génériques de l'émission Temps X, par exemple. Avec des moyens très 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 rudimentaires, il va faire quelques petits articles dans mon souvenir qui vont paraître dans des revues spécialisées. Je pense que Mad Movies avait une ou deux fois fait appel à lui ou sous forme d'interview en fait où il découvre, où il expliquait quelques techniques. Mais il n'aura jamais vraiment l'occasion de monter un projet. Il va néanmoins être césarisé deux fois pour des courts-métrages qui sont mis en évidence.
Dans le coffret.
Voilà, dans le coffret, notamment le Voyage d'Orphée et Un amour d'Hoffmann. Alors on voit déjà dans le choix des sujets qu'il marche sur des œufs, c'est-à-dire qu'évidemment il ne va pas faire Gargoyles de movie. Quoi, tu vois. On est en France, donc le Voyage d'Orphée, c'est quand même une façon de rappeler que oui, c'est l'animation, c'est de la poésie, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est qu'on ne prenne pas peur, hein, c'est pas des courts-métrages poète-poète, loin de là. Enfin, Costa, quand je dis que c'est un artisan, c'est vraiment un artisan, c'est quelqu'un qui a une approche, je dirais, très terre-à-terre, d'une certaine façon, du récit, de la beauté. Je ne vais pas parler d'âme paysanne, mais bon, tu connais mon goût pour tout ce qui est culture populaire. Pour moi, il y a une noblesse réelle dans cette approche-là. Donc, malgré ces... C'est César, ça va pas vraiment l'aider à faire décoller sa carrière. Il y a tout simplement pas de boulot en France pour des gens comme lui. Donc il va bosser sur une production italienne plus qu'embarrassante. Enfin, un des films préférés de Julien Dupuis, qui est Hercule II avec Lou Ferrigno, donc un film de Luigi Cozzi. Le premier était déjà un grand moment. Le deuxième, c'est un peu Hercule II, c'est un peu le Mortal Kombat Annihilation du premier Hercule, qui était déjà une série Z de dernière catégorie. Donc c'est voilà. Il va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir dans les années 90, puisqu'il va être engagé sur le projet Mars Attacks, au moment où, à l'époque où ce projet est censé être fait en stop motion. Tim Burton étant lui-même un animateur de stop motion à l'origine, pour lui, il est évident que les années des soucoupes vont être animées à la, entre guillemets, Harryhausen. Et donc, il va se déplacer pour commencer à bosser sur le projet avant qu'ils apprennent qu'en fait, tout va se faire en image de synthèse quand Warner a fait ses tests. Donc, voilà, il reviendra un peu la queue basse. Et ça va, je pense, précipiter la fin de sa carrière, où il va finalement se consacrer à l'enseignement et former pas mal d'animateurs à partir de la fin des années 90. Donc voilà, aujourd'hui il est encore plus ou moins à la retraite, mais enfin il a continué à enseigner assez longtemps. À propos d'enseignement, un de ses premiers assistants qu'il va embaucher, c'est un certain Jean-Pierre Jeunet, qui aura une petite carrière sympathique par la suite.
Toute petite.
Voilà. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui, donc, au niveau médiatique, à l'exception des moments où le César du court-métrage l'a fait éclore auprès du public, le reste du temps, il n'existait pas. Donc, lui consacrer enfin un coffret DVD qui regroupe toute son œuvre, pas seulement ses courts-métrages, mais enfin, il y a aussi tous ses essais près La tendresse du maudit. On a les quelques making-of d'époque qui ont pu être faites sur lui, plus des documents récents de retour sur sa carrière, sur les techniques qu'il utilisait, etc. Ça fait partie de ces rois de la débrouille, du découpage, le plan d'ouverture de La tendresse du maudit qui m'avait vraiment ému quand j'étais gamin, c'est littéralement du découpage papier avec des éclairages ingénieux derrière, et le résultat est magnifique. Donc voilà, en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer à la soirée de lancement du livre Temps X en présence de Bogdanov, et c'est un type évidemment absolument charmant, discret, très, très étonné que des jeunes ou moins jeunes le reconnaissent.
Le moins jeune.
et attendre de ses nouvelles, etc. Donc bon, il a rencontré les grands maîtres, hein. C'est un gars qui il a rencontré Harryhausen, il connaissait bien Phil Tippett, le monde de la stop motion internationale étant finalement un tout petit monde, il fait partie quand même de cette communauté. Donc voilà, merci à cette édition de DVD de permettre enfin à un public de
Rimini Édition,
de redécouvrir dans des versions remasterisées les œuvres de Costa. Je pourrais faire le listing de tout ce qu'il y a dessus, mais les deux DVD sont bien remplis. Voilà.
Oui, parce que c'est un coffret double DVD, ouais, tu fais bien de le préciser. Il s'appelle donc Démons et Merveilles, et c'est chaudement recommandé, donc vous l'avez compris, par Rafik et par Nos Ciné. Merci beaucoup Rafik, notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique, nosciné.com, binge.audio pour trouver toutes nos émissions, retrouver toutes les références qu'on vient de citer et toutes les infos sur notre réseau Binge Audio. Puis on vous dit à très bientôt.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
jump.